Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Play by Play. Play by Play, votre émission jeux vidéo du mois. Comme vous avez l'habitude, ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé, étant donné que la dernière émission date de juin et d'un petit peu plus loin dans le mois de juin. Mais très heureuse de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, au programme, on aura bien évidemment, comme toujours, l'actualité e-sport avec votre responsable technique Quentin.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de faire cette émission avec vous comme d'habitude.
Qu'est-ce qu'on a en deux, trois mots au programme de ta séquence e-sport ?
Genji sont imbattables et ça commence à devenir énervant. Et il y a une nouvelle compétition des Worlds Rocket League qui va faire son grand retour cette année.
On aura aussi l'actualité jeux vidéo que je vais vous présenter pour ma part. Et on verra quelques actualités et les sorties pour les jeux de l'été. Bien évidemment, tout ne sera pas présenté, mais ça vous permettra déjà de faire un petit tri. Votre focus jeu de cette émission sera fait par Mathis et va porter sur un jeu que vous connaissez que trop bien.
Exactement. Alors donc c'est Sherlock Holmes, chapitre 1, un jeu où finalement on voit Sherlock Holmes sous un autre jour.
Et c'est justement ce que tu vas nous expliquer, ce qui, à mon avis, va beaucoup vous surprendre, parce que de ce que Mathis m'en a raconté, c'était surprenant. Et pour terminer cette émission, j'ai testé pour vous une licence plus qu'emblématique, tant elle a marqué le passé, et cette fois-ci, ce sera Civilization 6. Tu nous as préparé un petit programme sur l'actualité e-sport qui, ma foi, a l'air d'être énervant.
Énervant. Alors peut-être énervant, c'est pas le mot que j'aurais dû employer, mais disons qu'il y a une équipe qui sort un petit peu du lot. Alors pour commencer, on va parler de la finale du MSI. C'était une finale que forcément tout le monde attendait. Elle a tenu des très très belles promesses. Dans l'arène de Vancouver, le Mid-Season Invitational 2025 a rendu donc son verdict. Et quel verdict Alors pour le coup, attendu et inattendu en même temps. Je vais m'expliquer un peu plus tard. Un duel 100% coréen où Genji a triomphé sur T1 au terme d'un BO5 au sommet, qui offre donc à Genji son deuxième titre consécutif du Mid-Season Invitational, vu qu'ils avaient déjà remporté celui de l'année dernière en 2024. Et surtout, ils ont gagné leur ticket pour les Worlds de 2025. Donc même si leur prochain split est catastrophique, ils participeront. Donc voilà, c'est la petite règle. Hein. Le gagnant du MSI a une place au World attitré à coup sûr. Maintenant, pourquoi je dis que c'était attendu et inattendu en même temps, c'est que Genji, on les connaît pour être excellents à domicile. Quand ils sont en Corée, ils sont imbattables et voilà, ils sont trop forts, ils roulent sur tout le monde et ils gagnent quasiment à chaque fois le titre. Par contre, compétition internationale, ça se fait caca dessus. Hein. Très clairement, il n'y a pas d'autre mot. Généralement, Genji, World, MSI, toutes ces compétitions internationales, les finales, ils n'étaient pas trop habitués et certains ils voyaient même presque une limite, une malédiction. Quoi. C'est un point où pour eux, ça devenait limite impossible pour eux de réussir à choper un titre international. Ils l'ont réussi pour la première fois l'année dernière. Là, ils remettent le couvert une deuxième fois cette année. Donc, la malédiction, à mon avis, elle s'est levée. T1 avait ouvert les hostilités en brio en profitant d'erreurs individuelles de Genji et forcément, Honor était très présent sur les objectifs neutres. Genji est resté relativement solide et comme je te disais, depuis le début du spring, ils sont là, ils sont présents, tout est carré. Porté notamment par Keen en top lane et Chovy qui, comme à son habitude, est un robot, tu ne sais pas comment il fait. Il a des statistiques de robot, ce mec est pas d'erreur, clinique. Vraiment, il est clinique, dans tout ce qu'il fait, c'est clinique. C'est pas un joueur qui est surprenant, mais il est parfait. Tout ce qu'il fait, c'est nickel. Le troisième acte donc de la partie a vu Goumaï aussi en mode Super Saiyan parce qu'il a aligné un magnifique quadra kill décisif qui redonne l'avantage à T1. Mais c'est sans compter la résilience légendaire de Genji qui a su forcer un match 5 grâce à un rouleur qui, encore une fois, même s'il a tendance à s'en troll une petite de temps en temps, faut savoir que rouleur est probablement top 1 ou top 2 ADC dans le monde à l'heure actuelle. Même, ça fait déjà quelques années qu'il est considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Donc forcément, quand on demande à Canyon de jouer Nidalee, quand on demande à Rouleur d'être décisif sur un match et qu'on est sur un Genji qui fonctionne parfaitement, comme on l'a dit, clinique, robotisé, etc., ça fonctionne très très bien. Et donc forcément, Genji enchaîne donc, lors de ce MSI, à la finale de MSI, enchaîne donc sa 23e série remportée consécutivement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, ça veut dire que 23 23 fois, ils ont participé à un match, 23 fois, ils ont gagné et ils n'ont pas perdu entre 23 victoires consécutives.
Est-ce qu'on a une autre équipe qui peut potentiellement s'approcher de ça ou pour faire un petit comparatif pour ceux qui ne se rendent pas compte d'à quel point c'est énorme?
Alors, je ne sais pas s'il y a eu des séries consécutives aussi longues. En Europe, la dernière équipe qui a fait un truc aussi impressionnant, c'était Fnatic en 2000. Alors, je ne sais pas si c'était pas 2017 ou peut-être même avant, quand ils ont fait 18 victoires d'affilée au Spring de. Au Spring, je sais plus. Mais ils ont fait 18 victoires d'affilée sur un split régional, hein, on parle vraiment régional. Là, c'est 23 séries consécutives, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire MSI, c'est-à-dire le Spring à domicile, ça veut dire les compétitions entre, etc.
Donc
Donc
autant
bon.
dire que c'est exceptionnel et du jamais vu, quoi.
Et puis bon, disons qu'ils ont quand même. Enfin, ils ont affronté T1 qui, en compétition internationale, sont quand même réputés pour être l'inverse de Gen.G, c'est-à-dire que eux, une fois sur deux, c'est eux qui gagnent. Donc bon. Et une fois sur deux, on se rend pas compte, mais c'est énorme. Hein. C'est-à-dire que T1, ils ont 4 titres de champion du monde, ils doivent avoir 2 titres de MSI. Bon, en compétition internationale, on sait qui sont les meilleurs, en général, c'est eux. Bah là, malheureusement, ils ont perdu. Et côté botlane, du coup, j'expliquais, hein, Ruler est probablement un des top 3 ADC à son poste actuellement, voire même sur les 10 dernières années. Et je pense que pour certains, il est le meilleur à son poste. Pour sûr et certain. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va rentrer dans l'histoire de League of Legends parce que c'est le premier joueur à remporter 3 titres internationaux avec 3 équipes différentes. Et notamment 2 pays différents parce qu'il a joué et pour la Chine et pour la Corée. Et en bonus, forcément, record d'audience historique, plus de 3,4 millions de téléspectateurs, enfin de spectateurs plutôt, ont suivi en direct la dernière manche, sans compter les Chinois parce qu'ils ont un site différent pour les retranscriptions, etc. Donc on n'a pas les chiffres officiels. Donc sans la Chine, on est déjà à 3,4 millions, ce qui veut dire qu'avec la Chine, on peut facilement taper 5-6 millions de spectateurs. Côté EWC, je vais forcément vous surprendre. Vous allez voir, c'est vraiment, on ne s'y attend pas. Anyone's Legends a affronté Gen.G et ont perdu 3-2, parce que bah voilà, encore une fois, c'est Gen.G qui gagne. Encore une compétition internationale, encore une victoire de Gen.G, donc ça devient un petit peu inquiétant pour T1. Ils ont peut-être enfin un adversaire qui va pouvoir les titiller pour les Worlds cette année. Une victoire forcément précieuse arrachée au terme d'un BO5 qui était quand même plutôt intéressant. Et surtout, bah, comme je vous disais tout à l'heure, on était à 23 victoires consécutives. Maintenant, on est à 26. Donc, ça commence à faire beaucoup, 26 victoires consécutives. On commence à se demander qui va être la première équipe à être capable de remporter une victoire contre ce Gen.G. En plus, bon, bah, l'alignement Canyon Chovy est tout bonnement magnifique. Keen est un joueur qui est très 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 bon. Donc forcément, l'équipe, bon bah, n'a quasi. En fait, l'équipe, c'est simple, elle a aucun point faible. Juste, il y a un des 5 joueurs qui, une fois toutes les 10 parties, va être un petit peu moins bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais, hein, ce qui veut dire qu'il est juste un petit peu plus fatigué que d'habitude. Ce qui est terrifiant pour une équipe à ce niveau. Tout avait pourtant bien commencé. Hein, rouleau compresseur, hein. Gen.G a dominé les 2 premières manches, imposant une maîtrise tactique, des tempos parfaits, bref, le Gen.G qu'on connaît, hein, chirurgical, comme je l'expliquais, et moins de 30 minutes par game, hein, donc bah forcément, Anyone's Legend n'a pas eu autre mot que de devoir se bouger un petit peu le cul et remonter à 2-2, et à forcer donc une game décisive qu'ils ont encore une fois perdue contre Gen.G, qui, bah voilà, premier kill avant la 5e minute, snowball, 8 000 gold d'avance à 25 minutes. Bon, bah voilà, donc globalement, Anyone's Legends a eu de l'espoir, mais l'espoir, il n'a pas duré très très longtemps. Donc forcément, Gen.G remporte son premier titre de l'EWC, enchaîne avec donc cette 20e, 26e série consécutive gagnée, une dynamique assez exceptionnelle qui a débuté au printemps, qui se prolonge au MSI et qui maintenant confirme que à l'heure actuelle, Gen.G est la meilleure équipe au monde, il y a plus de doute. Je veux dire, quand t'as tout gagné, enfin, quand t'as quasiment tout gagné sur l'année, bon, c'est pas étonnant. Keen, du coup, est un joueur qui devient ultra stable tout au long de la compétition et logiquement désigné MVP de la finale. Le trophée reste donc en Corée du Sud, mais passe de T1 à Gen.G, qui confirme cette année, voilà, encore une fois, qu'ils sont capables de faire des choses à l'international, ce qui honnêtement était relativement surprenant. Mais le WC, c'est pas que ça. Alors, je vais quand même faire un topo sur G2 eSport, l'équipe européenne qui a. Malheureusement fini 4e en perdant contre T1. Et pour expliquer un petit peu, le WC, donc, c'est plein de jeux Avec un classement par points, si tu finis premier, tu as plus de points, si tu finis deuxième, tu en as un peu moins, etc. etc., etc. Donc sur plusieurs jeux, plus tu participes à de compétitions sur plus de jeux, plus tu as de chances de gagner beaucoup de points et plus tu as de chances d'être parmi les premiers. Ce qui est le cas d'ailleurs de Team Vitality, qui à l'heure actuelle, à la 7e semaine de la compétition, est premier avec 2200 points, notamment parce qu'ils ont fait une très bonne position sur Ren Sport et une première place sur Mobile Legends, équipe féminine. Une bonne place également sur Free Fire. Donc forcément, ça leur a rapporté pas mal de points. Donc plutôt intéressant pour cette équipe, qui est d'ailleurs une équipe européenne, qui de base est une structure française, quand même, il faut le rappeler. Donc un petit cocorico. Genji, avec leur victoire sur League of Legends, est deuxième au classement à l'heure actuelle avec 1800 points. Et puis après, la troisième place, c'est Team Falcon, une équipe américaine qui a 1450 points à l'heure actuelle. Fnatic n'est que 12e pour le moment. Team Heretics est 5e et à égalité avec Detonation Focus Me, Evo Esports, enfin bref, beaucoup d'équipes. Et à l'heure actuelle, voilà, c'est les équipes les mieux classées pour le moment. Rien de bien, bien figé, vu qu'il reste encore plus de la moitié des jeux qui n'ont pas encore été bouclés. Donc, pas mal de surprises peuvent encore arriver. Et par rapport à cette dernière actualité, les Worlds FIFA Rocket League. Alors là, ce n'est pas une Coupe du Monde par club, c'est une Coupe du Monde par pays qui s'organise. Donc l'équipe de France va donc re-signer une deuxième année pour la Coupe du Monde. L'année dernière, on avait envoyé Monkey Moon, Vatira et Exotic, il me semble. Alors je me souviens plus du classement qu'ils ont fait, mais il me semble que c'était très très bien quand même. Objectif donc Riyad en décembre 2025 pour une revanche mondiale et peut-être donc le premier sacre de l'équipe de France. Du 10 au 19 décembre prochain, la scène internationale de Rocket League vibrera au rythme de la FIFA World Cup 2025. Comme je disais, ça se passera en Arabie Saoudite à Riyad, une compétition désormais bien installée dans le paysage sportif, puisqu'on verra le retour de la France qui s'est battue jusqu'en finale l'an passé. Donc voilà, une deuxième place pour cette équipe qui était très intéressante. Et puis voilà, l'objectif globalement, c'est offrir une très bonne expérience aux joueurs et aux équipes. Pour l'équipe de France finaliste en 2024, c'était l'occasion rêvée de franchir un cap. Et ça reste l'un des collectifs les plus redoutés du circuit. Le prize pool était estimé à 250 000 dollars et viendra à ajouter un peu plus de piment à l'événement. Mais au-delà des récompenses, c'est le prestige international que les tricolores viseront cette année. Donc voilà, en espérant que les scores soient très très bons pour cette équipe.
Eh bien, merci beaucoup Quentin. Et puis évidemment, on n'a pas d'e-sport sans jeux vidéo. Donc de mon côté, je vais vous parler un petit peu de toute l'actualité de ce côté-là. En tout cas, pour la sortie des jeux de l'été, on va avoir pas mal de nouveautés puisqu'on va commencer avec Wuchang Fallen Feathers, qui est un action RPG au style un peu Souls-like, développé par Lin The Game. Le cadre de l'histoire se pose à la fin du règne de la dynastie Ming, alors que des manifestations surnaturelles apparaissent ça et là. Il incombera à vous de repousser les menaces qui envahissent le pays. C'est un jeu qui est en PEGI 18, qui est un solo, mais également un multijoueur. Qui est un solo, pardon, mais qui peut également être joué sur du multiplateforme. Et il verra sa sortie le 24 juillet 2025, donc dans vraiment très peu de temps à l'heure où vous écoutez cette émission. On aura également le Seigneur des Anneaux Tales of the Shire, qui est un jeu vidéo développé, pardon si je le prononce mal, par Weta Workshop, studio spécialisé dans les effets spéciaux des films, qui ont signé ceux des trilogies du Seigneur des Anneaux et aussi du Hobbit. On va y incarner un Hobbit qui vit sa vie paisible dans une ambiance plutôt décontractée. Donc il s'agit d'un jeu qui se tourne plutôt sur le sandbox, qui est de la construction globalement assez libre, et également de la gestion. C'est un PEGI 7 et il est également sorti sur la totalité des plateformes et sortira le 29 juillet 2025. Autre catégorie très différente, on a Who's at the Door. Donc vous êtes atteint d'hallucinations. Votre objectif est de chaque jour déterminer si le voisin qui sonne à votre porte est bien réel et vous aidera, ou s'il s'agit d'une hallucination qui vous pourchasse. Celui-là est un PEGI 17, c'est un survival horror comme vous vous en doutez. Il ne sortira que sur PC et pour le moment on n'a pas de grosses nouvelles là-dessus. On sait qu'il sortira en juillet 2025, mais pas de grandes nouvelles là-dessus pour le moment, mais en tout cas, si jamais on en apprend un petit peu plus, on vous tiendra au courant. Également, le jeu Mafia The Old Country, qui est un jeu développé par 2K Games et 13 Hangar, qui prend place dans la saga mythique éponyme, et cette fois-ci, il sera question de découvrir les origines de la mafia au cœur de la Sicile des années 1900. L'ambiance devrait toujours être digne des meilleurs films de gangsters, mais... des buildings plutôt américains. C'est un PEGI 18, c'est un aventure et action. Il sortira sur multiplateforme le 8 août 2025. Également Dying Light de Beast. Donc c'est un jeu d'horreur à la première personne entre action et plateforme. Et je vois Mathis qui est très heureux. C'est un stand-alone où le joueur aura l'occasion de retrouver Kyle Crane, le héros du premier jeu, qui va tenter de survivre en pleine apocalypse zombie après avoir été captif pendant 13 ans dans un laboratoire. La bête en lui qui peut ressurgir à n'importe quel moment. Donc c'est également un PEGI 18, un survival horror, vous vous en doutez bien. Celui-ci est multiplateforme et sortira le 22 août 2025. L'avant-dernier que j'ai à vous proposer, c'est Story of Seasons, Grand Bazar, qui a fait énormément de bruit et qui est un jeu de simulation de vie et de gestion dans lequel on incarne un nouveau venu dans la ville de Zephyr. C'est un remake du jeu de DS du même nom et le titre va vous proposer de vous occuper de vos plantes et de vos animaux avant de tout revendre le jour du marché tout en tissant des relations avec les habitants du village, ce qui ressemble énormément à plein de jeux qu'on peut voir et qui sont un peu des dérives de Stardew Valley sur les bords. C'est un PEGI 3. C'est un jeu de simulation et gestion, bien évidemment. Il va sortir sur PC et Switch seulement et sortira le 27 août 2025. Et le dernier que j'ai à vous proposer, c'est Goblin Cleanup. Donc Goblin Cleanup, c'est un jeu coopératif de nettoyage dans lequel vous incarnez des gobelins chargés de remettre de l'ordre dans un donjon après le passage destructeur des héros. Sans débris, restes de monstres, à vous de faire briller l'endroit en évitant les pièges. Donc c'est une sortie qui se fera uniquement sur PC, c'est un simulation RPG aventure, c'est un PEGI 16 et ça sort le 28 août 2025. Si on passe plus du côté actualité globale, Inzoï va voir un nouveau DLC gratuit arriver qui va se nommer Kaaya. Ce sera un nouveau monde tropical qui va permettre un réel bol d'air frais et une façon inédite de jouer. On est, de ce que j'ai cru comprendre, sur une certaine destination de vacances, mais le trailer complet sera dévoilé le 19 août lors de la soirée d'ouverture du Gamescon 2025. Donc restez affûtés si jamais vous aimez beaucoup Inzoï, qui est un jeu qui a fait beaucoup de bruit et qui à la base est quelque chose qui ressemble un peu aux Sims. On a également un nouveau contenu gratuit en approche sur Elden Ring qui va être sous la forme des souvent des ténèbres, des versions extrêmement menaçantes des boss de base. Les premiers à avoir eu lieu à ce traitement radical étaient Adèle, Fulgor et Gosner, et avec la clé de nouvelles récompenses exclusives. On aura également la sortie de Battlefield 6 qui est un leak, donc n'est pas officiel. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais d'après Insider Gaming, l'éditeur va en effet tenir très prochainement un grand événement similaire à Call of Duty Next pour présenter officiellement et en grande pompe le prochain titre de la célèbre franchise FPS. Cela a commencé par le leak d'un lot promotionnel par un créateur de contenu, puis directement par le leak de la date de l'événement qui se produira le 31 juillet, donc dans très peu de jours. Donc pareil, si c'est le genre de jeu qui vous intéresse, je vous invite à noter la date. Et on fait souvent un petit focus sur Epic Games, puisque Epic Games sort des jeux de la semaine qui deviennent des jeux de leur catalogue gratuit. En fait, on en a un, deux ou trois, ça dépend. Et le prochain jeu de la semaine sur Epic s'appelle Légion TD2, qui est un tower défense compétitif avec un mode solo et également un mode multijoueur en ligne. Ce sera gratuit du 24 juillet au 31 juillet à 17h. Donc, je vous invite à vous dépêcher et à rester à l'affût si jamais celui-là vous intéresserait. Mathis, tu nous proposes un petit focus jeu et tu nous as prévenu que ce serait quelque chose qui est très différent de ce qu'on connaît du personnage de Sherlock Holmes.
Exactement. Alors, Sherlock Holmes, chapitre 1, donc quand le plus grand détective du monde revient à ses origines dans un pari risqué et personnel. Lorsque le studio ukrainien Frogware, connu pour sa série de jeux Sherlock Holmes, décide de revisiter le mythe, il ne choisit pas la facilité, parce que chapitre 20, le chapitre 1 de Sherlock Holmes, sorti en 2021, qui est l'avant-dernier jeu qu'ils ont sorti sur Sherlock Holmes. Maintenant, il y a The Awakened, qui est sorti 2 ans après. Le studio signe un reboot audacieux, prenant le contre-pied de la figure emblématique du détective en impair et chapeau haute forme. Ici, Sherlock Holmes est jeune, instable, borderline et humain. On a en fait ce côté qui très jeune, voilà, on vit finalement aussi un peu sa jeunesse. Il est, on va dire, jeune adulte. Finalement, l'objectif est de montrer l'homme avant le mythe. Ce virage n'est pas seulement narratif, il marque une volonté claire du studio d'émancipation après plusieurs années de collaboration avec divers éditeurs, parfois sous tension. Frogware décide de produire et publier le jeu en indépendant, une décision courageuse qui offre au studio une liberté rare, mais une pression financière énorme. Le développement s'est d'ailleurs déroulé dans des conditions très complexes, d'abord ralenti par le Covid, puis affecté directement par l'invasion russe en Ukraine en 2022. L'équipe de Kiev a poursuivi son travail dans des conditions précaires. Certains développeurs ont dû déménager ou travailler depuis des zones de conflit, ce qui donne à la sortie du jeu une dimension plus sombre, plus profonde qu'un simple projet de divertissement. C'est presque un acte de résilience artistique. Graphiquement et techniquement, le chapitre 1 repose sur Unreal Engine 4, une première aussi pour la série. Cela permet de créer finalement l'imaginaire de Cordona où l'histoire a lieu, un décor fictif mais cohérent, colonial et méditerranéen, qui tranche avec des ruelles sombres de Londres. Ce monde ouvert très inhabituel pour un jeu d'enquête a demandé un effort conséquent au level design car il devait rester crédible sans tomber dans le piège du remplissage artificiel qu'on connaît maintenant tous plutôt bien en termes d'open world. Le personnage de John, qui est en fait le compagnon imaginaire de Sherlock, est aussi un point central du développement narratif. Il symbolise l'état mental instable du héros et remplace le traditionnel docteur John Watson, encore absent à ce stade de la vie du détective. Ce choix illustre bien la direction prise de Frogware, introspective, psychologique et presque intimiste. En résumé, Sherlock Holmes chapitre 1 n'est pas juste un jeu, c'est le manifeste d'un studio indépendant, une prise de risque assumée entre contexte géopolitique chaotique et ambition artistique. En cassant les codes, Frogware réinvente un mythe tout en affirmant son identité, parfois au prix fort.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce que tu en as pensé ?
Bah, pour le coup, c'est bien amené, j'ai bien aimé. Il y a énormément, finalement, c'est très bien au niveau gameplay aussi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fini ce matin. Les enquêtes sont pas mal, je trouve aussi. Puis en fait, t'as ce côté où c'est pas linéaire. En fait, t'as dans les enquêtes, il y a le palais mental. En fait, de Sherlock Holmes, en fait, ça va. Il y a des indices qui te donnent. En fait, il y a moyen que ça soit ça ou ça. Et en fait, tu peux choisir entre les deux indices ce que tu veux, que tu peux changer après à tout moment. Et en gros, selon ce que tu choisis, dans le palais mental, en fait, il y a en fait, je crois, c'est des petites lignes qui vont arriver en fait sur d'autres bulles. Et en gros, ça va te donner le coupable selon en fait, ce que tu as deviné. Et en gros, tu peux décider après si tu veux. Par exemple, tu peux des fois l'aider à s'enfuir parce que bah, le crime n'était. Il y avait une raison derrière. Ou directement livrer à la justice. En gros, tu as deux choix, mais tu as aussi plusieurs suspects que tu peux arrêter selon en fait, ce que tu as décidé.
Est-ce qu'on a un autre jeu dans ce style-là qui va sortir ? Puisque le premier s'appelle Chapitre 1. Ce qui laisserait penser justement à d'autres chapitres, peut-être ?
Bah, du coup, en 2023, il y a The Awakened qui est sorti de Sherlock Holmes. Celui-là aussi, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore commencé. Je sais que normalement, ça parle du mythe de Cthulhu. Donc, j'ai déjà hâte de le faire. Je n'ai pas vu en fait, de sortie, mais on espère quand même qu'il y en ait.
Je reviens sur le mythe de Cthulhu. Est-ce que ce serait possible d'expliquer un petit peu dans les grandes lignes ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ?
Bah, ça vient en fait des œuvres, on va dire Lovecraftien. Ouais. Et en fait, Cthulhu, c'est un genre de. Alors, je suis vraiment pas très bon en termes de Lovecraft. De mes connaissances, c'est un genre de dieu des mers qui en fait aura un visage de pieuvre et un corps plutôt humanoïde, on va dire, géant. Je serais pas. Voilà, je lisais juste ce que je sais sur Cthulhu, c'est tout.
Eh ben, on vous invite à aller vous renseigner, parce que c'est vrai que tous les mythes de Lovecraft sont vraiment super intéressants. Même si c'est très compliqué et très long pour lire et comprendre, j'ai essayé de m'y acheminer un petit peu à un moment donné, j'ai vite abandonné. Mais pour ceux qui s'intéresse à l'univers de Lovecraft, aux mythes, à toutes ces choses-là. C'est vrai que ça peut être super intéressant d'aller se renseigner. Donc, c'est présent dans l'autre jeu, c'est ça?
C'est ça. C'est dessus. Peut-être que je referai encore pour un prochain play-by-play, je parlerai de ça.
Et même pourquoi pas, t'as le temps de le tester jusqu'au prochain play-by-play. Merci beaucoup pour ce focus jeu plus qu'intéressant. Et je vous propose qu'on se fasse une première pause musicale avec le titre In the House. Vous êtes toujours sur Play by Play avec un titre de John Murphy. Et à l'instant, Mathis nous a présenté son focus jeu du mois. Et justement, je tiens à rappeler que toutes les programmations musicales sont faites par Mathis. Donc si les musiques vous conviennent, sachez que c'est grâce à lui. Et si elles ne vous conviennent pas, sachez que c'est sur lui qu'il faut taper et pas sur nous. Mais en l'occurrence, les titres sont toujours très très bien choisis. Et vous commencez à en avoir l'habitude, mais le focus jeu est basé plutôt sur la conception du jeu, sur des détails très prononcés, mais un peu moins sur le côté du gaming en lui-même. Et on a une séquence un peu parallèle à ça, qui s'appelle le « J'ai testé », et qui est plutôt « On se pose devant un jeu », on le teste pendant X temps et on en parle. Et en l'occurrence, j'ai testé pour vous Sid Meier's Civilization 6. Avant de passer un peu à la suite, j'aimerais savoir si autour de vous deux, quelqu'un y a déjà joué, que ce soit au Civilization 6 ou même un autre. Et du coup,
je l'ai déjà pensé le jeu, même le suivant, je l'ai pensé aussi.
Donc Sid Meier's Civilization 6, tu l'as pensé?
C'est ça.
Donc je pourrais venir te chercher pour te poser 2-3 questions. Exactement. C'est très bien. Et Quentin?
J'ai le jeu, j'ai ouvert le jeu et j'ai joué 10 minutes. Donc je connais le jeu par cœur.
Waouh, quelle patience. C'est bien évidemment, si vous connaissez, un jeu de stratégie au tour par tour qui est sorti le 21 octobre 2016 sur Windows et qui a vu deux DLC sortir, donc le DLC Rise and Fall en février 2018 et le DLC Gathering Storm en février 2019. C'est également un jeu qui est sorti sur Android, sur iPhone et sur tablette, donc c'est vraiment vraiment sorti partout. Et le joueur est amené, comme dans les autres opus, à diriger une civilisation dans le style d'une nation ou même d'un empire. Et le but est de commencer à l'ère la plus basse avant d'apprendre diverses technologies jusqu'à l'ère d'aujourd'hui, allant jusqu'à une course à l'exploration spatiale. Vous devrez vous installer et fonder votre capitale avant d'avoir accès aux autres villes de votre nation, mais il faudra aussi fonder votre armée afin de vous protéger des barbares, mais également des autres nations qui pourront vous déclarer la guerre. Vous devez donc être prêt à toute éventualité. Vous aurez également accès à l'aspect diplomatique du jeu en utilisant le commerce international, la négociation, les déclarations d'amitié et même les alliances en cas de guerre. Dans Civilization, on a plusieurs victoires qui sont possibles, puisqu'on en a un total de 5 ou 6. On a la victoire militaire qui est remportée lorsque la civilisation est supérieure à toutes les capitales étrangères en termes de défense et de corps d'armée. J'invite Mathis à me corriger si jamais je dis des bêtises à un moment donné. On a également la victoire culturelle qui est remportée lorsque la civilisation comporte le plus de touristes étrangers par rapport aux autres civilisations. On a aussi la victoire scientifique qui sera remportée par la première civilisation qui va coloniser Mars ou qui fait arriver une expédition vers une autre exoplanète avec le DLC Gathering Storm. Vous aurez également la victoire religieuse qui sera remportée lorsque la religion de la nation que vous dirigez domine toutes les autres religions et civilisations. C'est une victoire qui est d'ailleurs impossible avec l'un des dirigeants du Congo qui ne peut créer de religion à lui tout seul. La victoire également diplomatique qui est disponible seulement avec Gathering Storm et qui est décrochée avec un certain nombre de points diplomatiques. Et pour terminer, on aura la victoire au score qui est remportée par la civilisation qui a le plus grand score et c'est déterminé par les technologies, les dogmes, donc le gouvernement, la religion, l'extension de l'empire, les merveilles qui sont des monuments uniques qui ne peuvent être construits que par une seule nation par partie et également les personnages illustres qui vont venir vous ramener énormément de bonus sur tout un tas de choses. Pour le coup, on a 6 ou 7 illustres, Mathis, il me semble, et c'est vraiment, vraiment très complet. On a pour le corps d'armée, on a également
le commerce. Il y a plein de personnes, en fait, au niveau des personnages illustres, il y a énormément de personnes qu'on peut connaître. J'aime bien, les personnages illustres, moi, je vais plus dans la musique dans ce jeu, ou encore les artistes, que dans les corps d'armée et tout ça.
Oui, parce qu'on a le général illustre, on a... l'artiste illustre, on a l'écrivain illustre, le musicien illustre, le sculpteur illustre, enfin il y a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'illustres et à chaque fois c'est vraiment pour un quartier spécifique. Parce que oui, il y a tout un système de quartiers où vous allez avoir le quartier des activités qui vont donner des activités à votre civilisation. Vous allez avoir le quartier religieux qui va permettre d'évoluer sur votre religion, mais aussi de pouvoir en donner à votre peuple. On a les quartiers militaires, on a vraiment énormément de choses. Pour le coup, c'est Un jeu qui est extrêmement complet, je pourrais tout vous expliquer en détail, mais ça risque d'être vraiment long parce que le jeu est très compliqué quand même. Je l'ai testé il y a quelques jours et j'ai déjà pas mal d'heures pour le jeu, pour une unique partie. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, Mathis, parce que en fait, elles sont composées de 500 tours quand tu es en vitesse normale. Et sincèrement, c'est quand même vraiment long.
Oui.
J'ai dû jouer 5 ou 6 heures facile et je dois être tour 390, 410, quelque chose comme ça environ. Les gens évoluent. Je me suis rendu compte qu'une partie de la map était colonisée par deux États et que c'était un peu catastrophique et que finalement je ne suis clairement pas la nation la plus grande. Donc Mathis, je vais avoir besoin de conseils pour pouvoir évoluer. Donc ouais, je vous conseille vraiment de beaucoup vous renseigner sur le jeu parce qu'il y a vraiment plein de petites choses à droite, à gauche. Oui Mathis.
Il y a aussi une chose qui est très drôle en fait sur le jeu. Même les développeurs en fait l'ont confirmé, c'est qu'en fait on a remarqué que Gandhi, qui lui dans le jeu prône la paix, n'aime pas quand tu déclares la guerre, il t'envoie chier. C'est arrivé à l'ère informatique, le dernier ère qu'on peut atteindre. Il se met à attaquer tout le monde. Et en fait, on se demandait pourquoi. Et en fait, c'est pour expliquer en fait, on va dire, il y a une jauge en fait d'amicalité entre les IA, tout ça. Et en fait, Gandhi, normalement, tout le long, il est à 100 d'amicalité. Et en fait, arrivé à l'ère informatique, il passe à 100 et plus. Et en fait, le jeu le comprend comme revenir à zéro. Donc en fait, il aime personne à la fin. Et du coup, c'est marrant en fait de savoir ça. Si tu te dis, mais en fait, Gandhi, de base, il est juste gentil. Il devrait pas t'attaquer. Et en fait, il t'attaque.
Donc c'est purement un bug ?
Oui, purement un bug, pas corrigé. Mais du coup, c'est génial.
C'est excellent, c'est vrai que Gandhi est connu pour ce genre de choses, donc pour le coup, c'est vrai que c'est assez surprenant, j'avais pas vraiment vu ce genre de choses, je suis pas allée assez loin, et Gandhi n'est pas présent sur ma partie. Pour le coup, j'ai pas mal de civilisations, je dois avoir 5 ou 6 civilisations, mais pas celle de Gandhi. Malgré tout, le jeu est hyper complet. Il y a quelques difficultés à prendre en main quand c'est la première fois qu'on touche à Civilization, parce que pour le coup, moi, Civilization 6, c'est le premier que je touche, j'en ai absolument jamais fait avant. Donc, je débarque un peu dans un milieu qui est vraiment très fondé et où les joueurs connaissent vraiment beaucoup de choses. Et j'arrive un petit peu comme ça en tant que débutante de cette franchise-là, mais progressivement, on va prendre nos marques et la stratégie va se fonder progressivement. C'est un jeu qui laisse vraiment la place à la réflexion. Quand on est en solo et que du coup les IA sont autour, si on doit réfléchir 2 heures à une action, on réfléchit 2 heures à une action. C'est vraiment du tour par tour, c'est chacun pour soi, etc. Et c'est vrai que ça permet vraiment de pouvoir réfléchir et de pouvoir, en cas de grosse attaque, pouvoir vraiment réussir à trouver une stratégie qui va peut-être mieux passer. On n'est pas mis sous pression. C'est un jeu qui, globalement, est vraiment, vraiment chill. Et c'est même assez drôle d'y jouer. En fait, finalement, on se sent un peu comme le dirigeant d'une grande nation, mais à petite échelle. Et vous allez pouvoir choisir parmi plein de dirigeants possibles, justement. On en parlait à l'instant. Et également, plein de cartes différentes. Ou bien laisser place au hasard et voir ce qui en ressort. On a énormément de dirigeants possibles pour le coup. C'est vrai que je ne sais même pas combien il y en a, je ne les ai pas comptés, mais il y en a plus d'une quinzaine.
Bah, ça dépend après selon si tu prends les contenus additionnels.
Ouais. Mais sans les contenus additionnels, je...
Bon, ils ne sont pas très nombreux. Hein.
Ah ouais ?
Pas très nombreux. Ouais, mais ouais, ça tourne dans les dizaines.
Ouais, donc moi j'ai ceux des DLC qui sont en plus avec, à mon avis.
Plus le contenu additionnel, tu arrives facile vers les 30.
Ouais, donc c'est ça. C'est vrai qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup pour le coup. Mais chaque dirigeant que vous allez avoir va avoir ses qualités, ses défauts, va avoir des sortes de petits plus. Par exemple, moi j'étais partie sur l'Empire français et il y a tout un système de garde royale qui est une unité qui est exclusive à la France. On a un système aussi d'espionnage qui est aussi exclusif qu'à la France et qui va venir comme ça rajouter plein de petites choses. Et chaque civilisation, chaque empire a ses petites particularités selon son dirigeant. Comme tu le disais, on a Gandhi qui globalement va toujours être en quête de paix. On a d'autres dirigeants qui, eux, au contraire, vont vraiment monter dans le truc. On a ceux qui sont là et qui ne cherchent pas forcément la merde et qui sont très discrets.
C'est Barberousse, je crois, c'est du coup le dirigeant de l'Allemagne qu'on peut jouer, qui lui, par exemple, aime bien en fait, plus la sécurité, comme Trajan aussi pour Rome, qui aime aussi, voilà, si tu as des camps de barbares à côté de chez toi, il ne va pas trop aimer. Si tu as une armée trop faible, il ne va pas aimer. Donc forcément, il va te dénoncer. Tout ça, en fait, c'est voilà, l'IA a ses traits selon le personnage qu'elle joue.
Oui, parce qu'on c'est vrai qu'on parlait alliance, mais les alliances sont selon le caractère du dirigeant en face, et on ne pourra pas faire des alliances avec tout le monde. Et certaines de nos alliances vont nous rendre ennemis avec d'autres personnes. Et c'est vraiment un côté du jeu que je trouve plutôt réaliste et vraiment sympa à exploiter. Ça permet de connaître un petit peu plus facilement toutes les caractéristiques des dirigeants et de savoir dès le début de partie avec qui on va essayer de créer une alliance et avec qui on ne va pas le faire. Si on peut parler un petit peu du jeu graphiquement, c'est plutôt sympa. J'ai été assez surprise. Les dirigeants sont vraiment bien dessinés, on s'y croirait vraiment. C'est très immersif et franchement, c'est sympathique. Et en bref, vous l'aurez compris, je le pense, je le conseille grandement. Pour les connaisseurs, ça ressemble un peu à Anno ou encore au jeu de société Risk, avec des parties tout aussi longues et tout aussi stratèges. Et si jamais le jeu vous intéresse, il est en ce moment même gratuit en tant que jeu de la semaine sur Epic Games. C'est la Platinum Edition qui est au prix normal de 80€. Donc pour le coup, c'est une sacrée affaire. Moi, c'est là que je l'ai pris et c'est comme ça que je l'ai découvert. Il va rester gratuit jusqu'au 24 juillet à 17h. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous ne l'avez pas encore, pressez-vous parce que c'est le moment où jamais, si vous ne le possédez pas encore, et de ce que je crois comprendre, Mathis le conseille tout autant. Vu que tu dis avoir poncé le jeu.
Exactement.
T'as joué à d'autres civilisations à part le 6?
Bah le 7. C'est, ouais, j'ai commencé avec le 6 et puis bah, j'ai continué avec le 7.
Donc le 7 est le dernier?
Ouais.
Okay.
C'est ça. Les dessins sont un peu plus réalistes, on va dire. C'est plus dans le réalisme que dans... Mais toujours sur un ton assez cartoon quand même.
Bah, j'irai voir à l'occasion et je vous invite à aller voir aussi. Je sais pas s'il y en aura un suivant de prévu, un 8 ou quelque chose.
Le 7 est sorti récemment.
Ouais, donc à mon avis, si ça sort, c'est plus tard. Mais Civilisation est une... C'est une licence qui est vraiment, vraiment très connue pour le coup et qui parle d'elle depuis des années et des années. Et donc voilà, c'était Civilization 6 et je vous propose justement qu'on se fasse une pause musicale avec un titre de The Dream of Flight.
Speak not to a world that she cannot.
Et malheureusement, nous arrivons à la fin de ce play-by-play. Je tiens à remercier la totalité de l'équipe qui a fait cette émission avec moi, avec Quentin qui l'a réalisée, et Mathis qui a été mon co-animateur, et Louis, notre très cher spectateur. Bien évidemment, nous sommes retrouvables sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, X, vraiment, vraiment partout. Et également sur notre site internet, sur le site internet d'Eiffel Radio. Play by Play, c'est diffusé le lundi de 21h à 22h sur notre site ou encore sur We Love Radio, qui est une plateforme où vous pourrez retrouver plein de radios qui est disponible sur le Play Store et qui ne vous coûte strictement rien et qui vous permet d'écouter notre direct. Vous ne pourrez pas écouter nos podcasts, mais ça vaut toujours le coup de passer de temps en temps et ça permet une écoute en voiture. Et ça vient un petit peu contrebalancer le fait que Eiffel Radio est une web radio. Merci beaucoup à toutes et à tous et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau Play by Play.